aujourd'hui sans faute.
Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami.
Bonjour à tous, bienvenue à notre quatrième émission d'aujourd'hui sans faute, notre émission sur la littérature, la langue française, l'orthographe. J'ai la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui une grande artiste de notre territoire, de la vallée du Loir. J'ai nommé Shelly De Vito. Bienvenue Shelly.
Merci, merci, bonjour.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas Shelly, mais ils ne sont pas nombreux, objectivement, vous êtes de nationalité américaine, donc c'est tout l'intérêt de vous avoir à cette émission pour avoir un regard extérieur sur la langue française, sur l'orthographe. On sait que souvent, les étrangers sont parfois plus attachés que nous à la langue française, donc on en discutera. Donc vous êtes directrice du centre culturel, artistique, chorégraphique, enfin il y a plein d'adjectifs pour qualifier les Moulins de Paillard, que vous tenez à bout de bras depuis de nombreuses années avec James Porter. Et donc vous êtes chorégraphe, danseuse de formation. Vous avez même fait du cinéma à une époque aux États-Unis.
Non, le cinéma, c'est vraiment pas dans mes métiers, on va dire. J'ai fait du cinéma en France pour gagner de l'argent pour payer le loyer.
D'accord.
Mais je suis vraiment quelqu'un de la scène. Donc, effectivement, première formation, premier métier était ballerine. Et puis après, j'ai fait mes études de mise en scène. Et puis, je suis arrivée en France où je ne parlais pas un mot de français et le travail n'était pas évident parce que faire du théâtre, quand on n'a pas les verbes en bouche, ce n'était pas évident.
Et contrairement à ce que certains pourraient dire, vous n'êtes pas la petite fille de Danny De Vito.
Non, Danny peut être le petit oncle de Shelly, mais non. Pas que je sache.
Aucun lien. Donc, bienvenue Shelly et merci d'être là parmi nous. Pour avoir votre regard, vous êtes francophone, francophile, vous vivez en France depuis de nombreuses années et surtout vous vivez en milieu rural dans notre territoire pour porter haut les couleurs de la culture aussi en milieu rural, on y est tous attachés. Donc quel est votre rapport à la langue française?
Ah, intime. C'est un rapport très intime et je vais partager avec vous un peu mon amour pour cette langue. Peut-être aller loin dans l'histoire parce qu'effectivement, James et moi, nous sommes arrivés en France et on n'avait pas un mot de français dans la bouche. C'est très intéressant d'aborder une langue quand on n'a que des sons.
Vous n'avez pas du tout étudié le français étant jeune?
Pas du tout. Les seules choses que je connaissais étaient pirouette, arabesque et rond de jambes en l'air. Et ça, c'était grâce à la danse classique. Mais évidemment...
Parce qu'il y avait pirouette, il y a cacahuète aussi.
Mais cacahuète, je ne connaissais pas.
Ah oui.
Voilà, et maintenant j'ai le plaisir de connaître les deux, mais non, je ne connaissais pas. Donc effectivement, on peut passer des soirées avec un grand faim parce qu'à la boulangerie, on ne savait pas commander une baguette. Et donc c'était peut-être la première période de ma vie où j'ai vécu l'humiliation totale en n'ayant pas la maîtrise de mes mots. Donc la seule langue que je connaissais avant, c'était la langue anglaise. Américaine en plus, et puis évidemment la langue de la danse, mais encore, on ne peut pas mimer la baguette partout. La langue.
Et du coup, vous avez pris des cours ou vous avez appris comme ça sur le terrain?
C'était dans les rues de Paris, comme on dit.
Mais est-ce que c'est la meilleure école?
Ça dépend de ce qu'on attend de moi. Si vous attendez de moi une langue parfaite, non, ce n'est pas la meilleure école parce que je fais énormément d'erreurs. J'ai cet accent coupe-couteau. Quand même, j'avais plus de 20 ans quand je suis arrivée en France. Donc, ce n'est pas comme si j'avais l'oreille fine pour apprendre les sons. Ce que j'ai compris, c'était qu'il faut oser s'exprimer. Et là, les premières années en France, j'étais muette. Vous entendez, j'étais pas une mouette, j'étais muette. Et là, il y avait, donc James dit souvent que c'était la meilleure année de sa vie de couple. Mais effectivement, petit à petit, on comprend ce que les gens disent, mais on n'arrive pas à répondre. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien avoir des réponses. Mais vraiment, je dirais, le moment où j'ai commencé à maîtriser un peu la langue française, c'était quand j'étais dans l'obligation d'écrire. Et ma première pièce de théâtre, j'ai écrite en français.
Il paraît que quand on aborde une langue étrangère, On commence à acquérir cette langue à partir du moment où on rêve dans cette langue. À partir de, ça vous est arrivé à partir de quand vous avez rêvé en français?
Ah, c'est drôle parce que j'ai commencé à rêver en français avant que je comprenne le français. Et le matin, on se réveille en disant oh, « j'ai compris le français ». Mais en fait, on comprend que c'était du charabia. Et on est convaincu qu'on va arriver. Je me souviens la première fois que le téléphone a sonné. On était chez des amis. Je prenais une sieste. J'ai répondu, mais automatiquement au téléphone, la personne m'a dit, j'imagine, bonjour. Et j'étais dans une panique totale. Donc, bien sûr, j'ai raccroché aussitôt. Et il y a des moments où on pense qu'on maîtrise et pas du tout. Ça m'arrive toujours quand je vais, par exemple, à la poste. Je panique devant le guichet. Donc, moi qui arrive à m'exprimer la plupart du temps, là, la panique froide et je dis rien. Et les gens pensent que je ne comprends pas. Mais le rêve...
Mais ça arrive à beaucoup de monde. Ça s'appelle aussi la phobie administrative.
Ah oui, oui. J'imagine vous le connaissez, Vincent, oui. Et là, maintenant, évidemment, je rêve en français, je rêve en anglais et je ne distingue pas. Là, par exemple, si je parle de cette émission et ce qu'on est en train de faire plus tard aujourd'hui, j'imagine, même si je parle de ça en anglais avec quelqu'un, les mots vont venir en français parce qu'on a vécu ça en français. Mais avec James à Payard, on passe dans une phrase d'anglais au français, c'est le mot qui est le plus accessible. Or, mes amis qui sont vraiment bilingues, qui sont nés avec les deux langues à la maison, ils sont plus pointus, ils arrivent à parler en anglais et puis en français, où moi je mélange tout. Parce qu'il y a même des mots que je ne connaissais pas en anglais, que j'ai appris qu'en France, donc je ne connais pas forcément la traduction.
Et quel est votre rapport avec l'orthographe?
Ah, j'adore. Je suis pénible. Encore, je n'ai jamais étudié, donc c'est que ce que je remarque. Mais déjà en anglais, je suis...
Exigeante,
on va dire, et pas pénible, effectivement, merci. Et en français, ça m'arrive d'écrire des messages et je n'ai pas le temps pour vérifier quelque chose. Et après, ça m'a hante la nuit. Je me réveille en disant « Ah zut, je crois qu'il y avait deux T ». L'autre jour, j'ai écrit une amie, une histoire d'un squelette. Et pour moi, squelette, c'est forcément féminin parce que ça se termine en « être ». Donc, j'ai écrit, je fais mes accords, le E à la fin pour l'objet. Et puis là, tout à l'heure, j'ai entendu dire un squelette et j'ai oh non, c'était une squelette. Et je m'en veux. Mais évidemment.
Mais la langue française est particulièrement compliquée. Alors, beaucoup de langues sont compliquées, mais la langue française a des spécificités. L'exemple que vous citez sur squelette, c'est illogique.
Merci.
C'est compliqué. C'est compliqué pour les étrangers pour apprendre la langue.
Il y a des gens qui diraient que nous, les Français, on est quand même un peuple compliqué aussi.
Certes.
Donc,
c'est à l'image.
Donc, il y a un accord, comme dans votre grammaire.
Mais par rapport à l'anglais, on a une complexité de grammaire, d'orthographe.
Que justement, je revendique en anglais aussi. Parce qu'en anglais, on a l'utilisation du subjonctif que peu de monde utilise.
Connaît.
Donc, je suis assez précieuse avec la langue anglaise déjà. Où je dirais que l'anglais est moins compliqué, c'est que si on n'est pas précieux avec sa langue, on comprend tout de même. Là, je crois que les gens revendiquent un peu moins. Tous les cas, les personnes lambda dans les rues de New York, c'est une ville où tout le monde vient avec une autre langue dans la bouche. Donc, on est peut-être un peu plus indulgent avec notre langue, parlée en tous les cas, même écrit. Or, moi, je ne suis pas indulgente sur la langue, je suis un peu exigeante, effectivement.
Mais c'est vrai qu'on remarque que souvent, les étrangers ou ceux dont le français n'est pas la langue maternelle sont plus exigeants, finalement, que les Français qui maîtrisent cette langue depuis leur enfance.
Absolument, c'est un peu comme aux États-Unis, les personnes qui sont d'origine anglaise mais qui sont américaines, ils sont plus royales que la reine, le roi maintenant.
Certes.
Et peut-être c'est ça, c'est qu'on a, en tous les cas, moi j'ai un petit complexe.
Et est-ce que vous trouvez que les Français ne sont pas suffisamment exigeants avec la langue?
Je trouve que cette question peut-être manque un peu d'exigence parce que c'est cas par cas. Et excusez-moi de le dire, mais votre question est importante. Mais je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non parce que ça dépend de la personne. Par exemple, je place l'exigence sur plusieurs choses. Quand les gens disent que je vois de temps en temps les personnes ont du mal à me comprendre à cause de cet accent, mais aussi, même quand ce n'est pas une question de la langue ou de la façon que je compose la phrase, c'est la façon que je compose ma pensée. Évidemment, comme vous l'avez dit, je suis artiste, je suis écrivaine. Donc, forcément, je prends un plaisir de composer une phrase à une façon peut-être plus poétique, un peu, j'ai des parties prises qui sont peut-être pas acceptées, mais qui sont des choix, des vrais choix. Donc, il y a cette exigence envers une structure qui est très rigide, ou moi je dirais l'exigence doit aller vers une souplesse qui favorise la poésie, la pensée, mais après l'exigence, est-ce que le corps est fait, est-ce que j'ai bien conjugué, est-ce que j'ai bien écrit, est-ce que j'ai remplacé le QU avec un K? Ça, c'est quelque chose qui me rend un peu folle, il faut le dire. Ça, je crois que c'est un autre niveau d'exigence, une autre forme d'exigence. Peut-être pas un niveau, mais une autre forme d'exigence. Et j'espère que les personnes qui écoutent, je parle très vite, pardon, mais qui écoutent ça, vous entendez par ça cette exigence de communication d'abord.
Donc le fond.
Oui.
Parce qu'il y a une question de forme aussi au travers de l'orthographe.
Oui.
La grammaire, c'est aussi le fond, puisque... En fonction de la construction de la phrase, effectivement, on n'a pas forcément toujours le même sens et on le voit notamment en poésie. Oui. Comme vous êtes attaché à la poésie, ça prend là aussi tout son sens. J'ai une question piège parce que vous n'êtes pas native, donc vous ne connaissez peut-être pas. Si je vous dis Becherel, ça vous dit quelque chose ou pas?
C'est mon Bible.
Vous avez cette Bible.
Là, donc, du coup...
Donc, vous êtes française, Chélie.
Ah, je ne sais pas. Merci. Je crois que vous savez à quel point je rêve de devenir française. Donc, voilà, ça m'a ému d'entendre ça. Et si c'est juste le Becherel que j'ai acheté pour 30 francs à l'époque, que j'ai toujours... En fait, j'ai compris que j'allais rien comprendre. Et aux États-Unis, j'ai jamais étudié la langue anglaise non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris ce que c'est une conjugaison. Nos conjugaisons sont assez simples. On a 12 conjugaisons pures. Je peux vous faire un cours d'anglais avec le plus grand plaisir parce que c'est à travers le Becherel que j'ai appris ma propre langue.
Ça permet de mieux comprendre la conjugaison anglaise, oui. D'utiliser le Becherel.
Oui, parce que quand on arrive ici, je ne connaissais pas « je ». Je connaissais, la seule chose que j'imaginais au bout d'un moment, c'est que je savais que la langue anglaise avait une de ses bases, était la base latine. Donc, je me suis dit, si je transforme un de nos verbes qui a une base latine que je pouvais deviner, que c'était pas germanique, donc je prenais ce verbe et j'ai ajouté ER à la fin. Et si, pour savoir quels sont nos verbes qui sont un peu plus soutenus, on va dire, ce sont les verbes qui viennent de cette base française, italienne, etc. Et là, donc, j'ai pris le langage un peu plus guindé, un peu plus soutenu, on va dire, plutôt, et j'ai ajouté ER.
Est-ce que ça marche à chaque fois?
Non, pas à chaque fois, mais assez.
Pas
assez.
Mal.
Par exemple, je voulais dire « I go up the stairs ». Donc, comment dire « go up »? Ascendre. Et là, c'est super poétique, c'est quelque chose de même... Oui, une personne dit « I ascend the staircase », mais là, je me dis...
Monter les escaliers.
Monter les escaliers, c'est une façon de dire. Donc, j'ascende et puis les gens me regardent tout le monde parce que c'est pas un verbe qu'on va employer, mais petit à petit, avec le geste, tout est compris.
Mais vous avez raison, parce qu'on peut dire l'ascension des escaliers, mm-hmm. Mais c'est vrai que le verbe, on l'utilise pas. On a mm-hmm. des verbes plus simples aussi qui sont issus de la langue parlée. Est-ce que vous avez un mot préféré dans la langue française?
Pardon, il n'y a que des gros mots qui viennent à l'esprit.
Ah, ça... mais... Vous disiez que vous aimiez la poésie, donc...
Espoir.
Espoir.
Mais c'est un mot que j'aime dans toutes les langues.
Dans toutes les langues. Mais après, il y a des sonorités aussi.
Oui. Là, en fait, je ne peux pas dire les mots que j'aime parce que les mots que j'aime ont les airs et je ne peux pas prononcer mes airs.
Mais si.
Mais danser, bien sûr. Ça, oui. Vivre.
Et du coup, on parlait de conjugaison. Il y a un verbe pour vous qui est un casse-tête de conjugaison en français, quelque chose sur lequel vous achoppez, vous trébuchez à chaque fois où c'est compliqué.
Si tous les verbes étaient ER à la fin, ça me ferait grand plaisir. tout ce qui est RE, tout ce qui est IR, tout ce qui est... Et bien sûr, le subjonctif. Là, pour ceux qui n'ont jamais essayé d'éviter un subjonctif, sachez que dans l'espace d'une demi-seconde, il faut reconstruire sa phrase parce qu'on a... Moi, je vais direct vers le mur et je dis « Ah, oh, non, mais je ne connais pas le subjonctif. » de ce verbe-là. Donc, du coup, comment je vais faire? Donc, du coup, il faut changer ma façon de tourner la phrase et je fais un super saut et voilà.
Mais ça, c'est encore plus compliqué en allemand.
Ah, mais attendez. Là, on est là pour parler de langue française.
Certes.
Et ça, je comprends.
Et on parle du subjonctif, mais on pourrait parler de l'imparfait du subjonctif que plus personne ouais. ou presque n'utilise, malheureusement.
Même les gens n'utilisent plus l'imparfait tout court.
Certes.
Là, je revendique ça, mais l'imparfait du subjonctif, non, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, justement, de l'imparfait du subjonctif?
Alors, vous pensez à l'argot, donc il y a encore eût-il fallu que je le suce du verbe savoir.
N'est-ce pas?
Ça vous fait rire, Chélie?
Ça m'a
mais
fait
c'est
rire
l'imparfait
parce que,
du subjonctif.
Mais tout à fait, et je ne vais jamais l'oublier maintenant, merci.
Et ça, tout ça, c'est dans le Becherel. Est-ce que vous avez une expression préférée en français? Notre langue est chargée d'expressions, mais en anglais aussi. Des expressions qui vous ont paru bizarres quand vous les avez découvertes?
Bon, préférée, c'est à table. À table, tout simplement. C'est pas une expression, mais à table, ça me parle. Après, bizarre. Oh oui. Ce que j'adore avec cette langue, c'est que c'est vraiment représentatif de notre pays, la France. Nous avons beaucoup d'expressions liées à la nourriture, liées aux fruits, aux légumes. Il y a mi-figue, mi-raisin. Il y a tellement de choses qui sont très colorées. On a l'équivalent, mais pas avec les mêmes images.
C'est vrai que la gastronomie, c'est fort dans notre culture, donc on a beaucoup d'expressions.
Et c'est parmi les raisons pour lesquelles je suis restée en France.
Ah, ça, c'est une bonne raison. Et vous êtes ici comme un coq en pâte?
Comme un coq en pâte. Cocorico, hein?
Est-ce que vous êtes plutôt Hugo ou Musso?
Hugo.
Hugo, les fondamentaux?
Oui.
Les grandes figures de la littérature?
Oui. Il y a aussi Rostand, le Non Merci de Cyrano. Il y a... J'ai pas étudié ça à l'école, j'ai étudié la littérature française à travers mes études de théâtre. Donc, tout ce que je connaissais, c'était en anglais. J'ai même joué quand j'étais jeune dans Les Femmes Savantes, mais version anglaise. Et il y a justement le monologue d'Henriette, ça, je ne me rappelle pas tout de suite, mais qui parle de... Moi qui aime bien les idées quand même, Henriette garde le côté terre-à-terre. Et je trouve qu'on a la possibilité de danser entre ces sphères, d'être proche à la terre et quand même toujours aller vers le ciel dans ses idées, dans l'envie de tout comprendre et accepter de ne pas tout comprendre. Donc là, quand même, oui, votre littérature m'a touchée assez jeune.
Comment on dit les femmes savantes en anglais d'ailleurs?
The Learned Ladies.
Ce qui est une traduction assez fidèle. Vous avez remarqué que dans le cinéma, par exemple, on a souvent des traductions de titres entre les langues qui n'ont rien à voir.
Absolument. Et je ne sais pas pourquoi, justement, parce qu'il y a des gens qui sont rémunérés pour trouver des titres. Et les titres sont souvent rebarbatisés. On ne peut pas avoir 5 films avec le même titre, mais dès que c'est un film américain qu'on va traduire, je me dis, mais qui est rémunéré pour ça? Parce que moi, j'aimerais bien ce boulot à ce moment-là.
Et on a même parfois des non-traductions ou même des transformations. Je prends l'exemple d'un film très, très populaire, Very Bad Trip.
Oui.
Le titre original en anglais n'est pas du tout celui-là.
Ah, je ne connais pas.
C'est Hangover, en fait. Hangover.
Ah oui, Gueule de bois.
Gueule de bois. Et pourquoi on a traduit on a traduit, mais on n'a pas traduit. On a recréé un titre en anglais.
Ah oui, avec un mot qui est souvent mal utilisé.
Oui.
On l'utilise pas exactement de la même façon. C'est un peu comme... Il y a des mots comme ça où je dis, mais c'est pas ça, faire du forcing. C'est pas le mot forcing qu'on va employer dans la même situation en anglais. Donc, c'est une appropriation d'une langue médiocre, en plus que le registre en anglais n'est pas forcément intéressant. Et on l'emploie pas du tout dans la même façon. Est-ce que ça, c'est pas une façon de faire évoluer la langue? Pourquoi pas? Mais moi, je vais plutôt défendre la richesse de votre vocabulaire parce que je suis sûre qu'il y a un autre mot pour dire loser. Et ouais, je vous en prie, c'est avec un seul O, pas deux. C'est pas loser, c'est loser.
Et du coup, les Québécois sont plus exigeants que nous là-dessus.
Mais c'est un peu comme les Américains et les Anglais.
Ils inventent des mots, ils trouvent des mots équivalents en français, quitte à en créer des nouveaux.
Tabernacle.
Pour ne pas avoir d'anglais.
Il y a ça, mais il y a aussi parce qu'il y a une souplesse, je crois. Donc, il y a ceux qui sont très exigeants, mais il y a aussi la souplesse d'être voisin. Avec les États-Unis. Mais il y a aussi, comme aux États-Unis, il y a l'emploi des mots assez archaïques par moment, parce qu'on est loin du pays mère, si on peut dire ainsi.
De l'origine de la langue.
De l'origine de la langue. Donc, c'est un peu comme si on nous a lâchés sur une île.
C'est une espèce de patois, en fait.
Patois, et même des choses qui sont désuées, on dit ça?
Oui, tout à fait.
En français, ici en France.
Qui sont restées.
Qui sont restées.
Comme isolées sur une île, effectivement.
Oui.
Pour parler d'anglicisme, on a beaucoup de mots anglais utilisés en français qui pourraient trouver leur équivalent français.
Mm-mm.
Est-ce qu'il y a un anglicisme particulier qu'on utilise au quotidien qui vous exaspère?
Ah, tous ces ING. Là, j'ai entendu à la radio ce matin...
Pas sur Contact FM?
Non, parce que
Bien sûr.
Non. Là, irréprochable pour moi.
Donc, Contact ce qui veut dire que vous écoutez autre chose que Contact FM, enfin bon.
Bon, il y a des moments où je suis loin du territoire, donc du coup, je suis dans l'obligation, je sillonne quand même pas mal de régions. Mais Contact FM a un grand public quand même. Et donc, oui, le ING, On n'a pas besoin de transformer les mots en ing pour faire à l'américaine. On a une telle richesse dans cette langue française que, oui, je suis plutôt contre. Bon, je ne suis pas Madame Toubon, mais je crois que c'est important, s'il y a un mot en français à employer, qu'on l'utilise. Pas de façon précieuse, mais pour continuer à nourrir notre langue. Je trouve aussi fondamental que les gens apprennent une deuxième langue, trois langues.
Oui, bien sûr.
Pour l'églotisme, je suis pour, mais pas au détriment de notre langue française.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a un mot en particulier qui sonne à votre oreille, qui vous plaît et pour lequel vous avez éventuellement toujours eu un doute sur sa définition?
Ça, c'est très dur. Je ne suis pas préparée pour ça, je crois, sur sa définition. En fait, c'est souvent les mots où j'ai un doute sur la définition. C'est le mot qui est le même.
Même qu'en anglais, oui. Des mots complexes,
les mots philosophiques, les mots... Et les mots, il faut toujours que je recherche dans le dictionnaire parce que je me perds. Non, je n'ai pas quelque chose qui vient à l'esprit, là. Non.
Moi, le mien, c'est concupiscent. Parce que c'est un mot que j'ai entendu quand j'étais tout petit. Je trouvais que le mot était rigolo quand on le décompose. Mais ça ne veut pas du tout dire ce à quoi je m'attendais.
Rien à voir avec les concubines.
Ah non, pas du tout.
C'est quoi ?
Regarder d'un air concupiscent, c'est regarder avec un petit peu de sarcasme.
Donc là, par exemple, quand j'entends un téléphone et je regarde votre téléphone comme ça, c'est un air
concupiscent.
Concupiscent. Pissant, concupiscent.
En termes de sonorité, il n'est pas très joli.
Non, mais j'aime bien, je vais l'employer demain, trois fois.
Mm-hmm. Quel est le mot français vous semble le plus international ? Vous qui avez ce regard étranger ?
Croissant.
Le croissant, oui. on revient toujours à la gastronomie.
Pardon, j'ai faim, j'ai pas mangé au déjeuner.
Vous auriez pu dire amour?
Amour, pour moi, c'est une langue universelle.
Mais le mot amour?
Amour, j'ai du mal à dire parce qu'il y a ce R à la fin.
Ah, oui. Est-ce qu'on entend régulièrement aussi le rendez-vous?
Oh, rendez-vous, déjà vu.
Déjà vu?
Oui. Et ce sont des mots qu'on emploie. Effectivement, en anglais, rendez-vous, c'est forcément un rendez-vous galant.
Oui, c'est un aspect romantique.
Oui.
C'est pas un rendez-vous de boulot.
Non, ça, j'étais un peu choquée, comme on dit la première fois que j'ai entendu ça pour le boulot. J'étais toute gênée en me disant, non mais
Vous pensiez que c'était un date?
Oui. Et donc j'étais claire, je dis, mon époux va m'attendre à 20h.
Et,
ouais.
Et ça fait longtemps qu'on utilise ces mots, depuis toujours.
Ah, pour moi, j'ai grandi.
Déjà vu, oui. Rendez-vous, c'est des mots qui ont été empruntés il y a longtemps.
Mais il y a longtemps, en tous les cas, depuis mes quelques années sur Terre, j'ai toujours entendu ces deux expressions. Après, déjà vu, j'ai appris ces derniers temps qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu un déjà vu.
Ah oui.
Et là, j'ai des déjà vus tous les 3 jours. Et c'est quand même une sensation très agréable. Donc, si vous n'avez jamais eu un déjà vu, je vous donne rendez-vous et je vais vous apprendre à faire un déjà-vu.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'équivalent en anglais de la signification particulière de déjà-vu.
J'ai l'impression que non, oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette sensation. Il faut le décrire avec toute une phrase, qui est souvent l'inverse. C'est souvent en français qu'on doit dire toute une phrase pour un mot en anglais.
Et est-ce qu'il y a un mot d'argot que vous aimez particulièrement? J'imagine que vous maîtrisez aussi, puisque vous nous disiez avoir appris la langue dans la rue. Mm-hmm. Donc, vous avez aussi appris l'argot.
Oui, et donc, du coup, il y a souvent des erreurs de registre parce que je répète ce que j'entends. Donc, je suis tombée vraiment dans un pot de confiture, comme on dit, quand je suis arrivée à Paris. J'étais avec des personnes qui aimaient la langue, mais ils ne faisaient pas attention à quand ils disaient un mot d'argot ou quand ils disaient un mot littéraire. Donc, je mélange un peu de tout.
Les registres de langue, c'est compliqué.
Oui, hein. Oui. Et la première fois, j'ai terminé une réunion, c'était avec la communauté de communes, justement, ici, la communauté de communes de Val-de-Loire. Et à la fin de la réunion, qui s'est très bien passée, j'ai « Ok, très bien, merci beaucoup d'être venu, je me casse. » Et j'avais compris que c'était pour dire « Voilà, c'est fini et merci beaucoup. »
C'est terminé.
Et c'est terminé. Et donc, évidemment, tout le monde a compris que c'était un problème de registre. Il y a des mots pour l'argot, il y a tellement de mots. Parmi les premiers mots, le livre que j'ai lu en français, c'était un livre avec énormément d'argot. Mais il y a un mot, les enfants qui ont grandi avec Payard, vous savez très bien que maintenant je maîtrise plus ou moins la langue française, maîtrise avec un petit M, je ne maîtrise toujours pas le mouton. Et pour tous les enfants et les jeunes adultes qui nous connaissent, au début d'une phrase, ça me rend folle. On n'est pas du mouton. Et je dis ça sur plusieurs plans. Mais le bas, quand quelqu'un met la main en l'air et je dis oui, Philippe, dis-moi. Et il fait je ne sais pas, j'ai jamais compris ça, ça me rend folle. Embellissez votre langue qui est déjà si belle.
Donc on n'est pas des moutons dans l'expression du béhé, ouais. Mais aussi dans l'attitude, faut pas suivre.
Bon, évidemment, si on me connaît, on sait que je ne suis pas forcément facile à faire suivre, oui. Ou à suivre.
Est-ce qu'il y a un mot de la langue française que vous souhaiteriez supprimer ?
Fascisme.
Fascisme, mais pas qu'en français, du coup.
Non.
Dans toutes les langues.
Oui.
Et au contraire, est-ce qu'il y a un mot qui manque au dictionnaire ? Vous qui avez ce regard extérieur, est-ce qu'il y a un mot qui vous manque ?
J'aimerais avoir un mot pour dire le plaisir que j'éprouve en étant là avec vous à cet instant même.
Ben, le mot plaisir, il est déjà pas mal comme ça, non ? Nous, en tout cas, on a beaucoup de plaisir à être avec vous, Chéni. Est-ce que vous avez un petit conseil de lecture ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un livre, en français évidemment, qui vous a particulièrement marqué, qui est un peu un livre de chevet, une référence culturelle pour vous, quelque chose qui a marqué votre vie et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs ?
Oh, il y en a tellement. Waouh ! Je pense aux auteurs plutôt qu'un livre. Non, il n'y a pas un seul.
Mais vous pouvez nous en donner plusieurs. Si
ok, donc voilà, évidemment, donc on a évoqué Hugo, toute la pléiade. Oui, vous avez les livres tellement riches. Parmi mes premiers livres, c'était de Patrick Modiano. Il y a des philosophes, évidemment, Henri Bergson. J'adore, je ne veux jamais lâcher ces livres. Il y a des choses plus contemporaines. Patrick Bouchamp, pardon, j'ai la tête qui tourne.
Le premier livre que vous avez lu en français, c'est Modiano ?
Je crois que c'était le premier livre que j'ai lu de A à Z, parce que c'était très simple. Patrick, c'est quelqu'un, donc c'était à travers la rencontre avec lui, et j'avais envie par amitié de lire ce livre. Et puis, donc oui, c'était le premier que j'ai lu son bachelor à côté de moi, et son dictionnaire, et c'était Dora Bruder.
Et le dernier que vous ayez lu ou celui que vous lisez en cours
Il y a justement, depuis que je suis au Moulin de Paillage, je n'ai jamais terminé un seul livre. J'ai au moins 27 livres.
Commencé,
oui. Et beaucoup d'écritures aussi que je n'ai pas terminé non plus. Et aussi un dossier pour devenir française que je n'ai pas encore terminé. Donc là, oui, Paillage prend beaucoup de temps.
Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est de préparer le podcast de cette émission. Comme ça, vous pourrez le fournir et c'est la meilleure preuve pour obtenir la nationalité française, Chéni.
Merci beaucoup, Vincent.
Quel est votre dernier mot pour clôturer cette émission ?
Merci.
Merci. Bah, merci à vous, Chéni. Merci pour cette belle émission. Merci du temps passé avec nous et de votre témoignage et de votre amour pour notre langue et pour notre territoire et pour tout ce que vous y faites. Merci, Chéni. À bientôt.
Aujourd'hui, sans faute.
Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami.